Ce matin, j'aimerais vous parler du royaume de Dieu. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui est dans Luc chapitre 15. On va regarder le chapitre au complet, inquiétez-vous pas, je vais vous faire un résumé, sinon on serait ici jusqu'après la deuxième. Luc 15, les versets 1 à 3, on lit ceci. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et y mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Tu vois, Jésus était attirant pour les publicains. Les publicains étaient détestés parce que c'était des Juifs qui travaillaient pour Rome. Imagine-toi un Ukrainien qui travaille pour Moscou présentement. Comment il serait traité en Ukraine s'il travaillait pour Moscou? Mais c'est ça un publicain. Et des gens de mauvaise vie. Des gens de mauvaise vie. Et ça avait pour effet de fâcher les pharisiens, les scribes, les religieux de l'époque étaient fâchés de voir l'accueil que Jésus leur offrait. Tu vois, le message de Jésus a toujours été fâchant pour les religieux. Et il l'est encore. Amen. Parce que la religion est basée sur mes efforts, mes mérites. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors que le message de Jésus est basé sur la grâce, la faveur non méritée de Dieu, qui accueille tout le monde, malgré mes efforts. Malgré mes efforts. C'est fâchant quand tu fais plein d'efforts pour être pur, pour être bon devant Dieu, et qu'il y a des gens de mauvaise vie qui arrivent, puis hein, ils sont accueillis, puis ils sont... C'est fâchant. C'est pas juste. Moi, je fais des efforts. J'ai vu mon père, moi, être sauvé 30 minutes avant de mourir. 30 minutes avant de mourir, il y a Jésus sur mon âme, puis je sais qu'il est sauvé. C'est pas juste. C'est tout ce qu'il a fait. Comment? Moi, je fais des efforts, Seigneur, puis lui, il a rien fait. Puis il est sauvé. C'est pas juste. Je sais que vous pensez pas comme ça. Moi, je vous dis que non, je pense, là, mais... Mais tu vois, la grâce, elle est venue pour détruire l'orgueil humain. La grâce est venue pour détruire l'orgueil. Jacques 4, le verset 6 dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il fait grâce aux humbles. C'est correct qu'on est dans la grâce. Et tu vois, pour se faire comprendre, Jésus va utiliser trois allégories, trois illustrations de ce à quoi va ressembler, de ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Mais ce faisant, Jésus est en train de dire comment l'Église devrait ressembler à quoi. Parce que l'Église, elle est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Amen! Et donc, quand il dit « voici à quoi est le royaume », ben il est en train de dire « voici à quoi devrait ressembler mon Église ». Mon Église devrait être un lieu d'accueil des gens de mauvaise vie. Là, vous auriez dû dire « amen ». Là, c'était le bon temps. Là. Un regroupement de gens qui ont humblement admis qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu. C'est ça, l'Église. Tu vois, l'Église est appelée à être un hôpital spirituel pour les pécheurs et non pas un musée pour les saints. Amen. Fait que quand tu vas à l'hôpital, je te le souhaite pas, vas-y pas de ce temps-là, mais si tu vas à l'hôpital, es-tu surpris de voir des malades? Non, t'es à l'hôpital! Hein, tu rentres à l'hôpital, mais là, ils t'en mettent dans le corridor, tu peux pas y manquer, il y en a partout. Ah, qu'est-ce qui se passe, ça? Il y a des malades, ça. Ben oui, t'es à l'hôpital. Mais tu vois, ça devrait être la même chose dans l'Église quand tu rentres. Ah, il y a un pécheur, il y a un pécheur. Hey, ça, c'est quelqu'un. Ah, man. Hey, ça va être bon, matin, je vous le dis, moi, ça va être bon. Et là, Jésus nous donne trois allégories. Une brebis qui est perdue, une pièce de monnaie qui est perdue, un fils qui est perdu. Laisse-moi te résumer les trois rapidement. Il y a un berger qui avait 100 brebis, il y a une brebis qui s'est égarée, il va laisser les 99, va aller trouver celle qui est perdue, va la mettre sur ses épaules, va la ramener dans le troupeau. Il y a une femme qui avait une pièce de bijou avec 10 pièces de monnaie sur le bijou. Elle perd une pièce de monnaie, elle cherche partout dans la maison, retrouve la pièce de monnaie, la remet avec son bijou. Il y a un père qui avait deux fils. Et il y a un fils qui se rebelle contre son père, qui veut tout son héritage, il s'en va, il va tout flamber, il va tout dépenser son héritage, et il va revenir à ses sens, il va revenir voir son père va l'accueillir, puis il va le restaurer dans la maison. Et ce faisant, Jésus fait ressortir les éléments qui font partie du royaume de Dieu. Que dans le royaume de Dieu, Dieu, premièrement, remarque ce qui est perdu, recherche ce qui est perdu, retrouve ce qui est perdu, réconcilie ce qui est perdu, restaure ce qui est perdu et se réjouit de ce qui a été retrouvé. C'est ça le royaume de Dieu. La première chose. La première chose, c'est que Dieu remarque ce qui est perdu. Le premier, verset 4, le berger, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une? Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une? Comme il était encore loin, le père le vit venir. Hein? » Le père qui avait deux fils. On s'entend que si tu as deux garçons et t'en perds un, c'est assez facile à remarquer. C'est assez facile. C'est assez facile de remarquer si tu as 10 pièces d'argent puis t'en perds une. Peut-être 9 à 10, tu en as 9, ça paraît, là, OK? Moi, ce qui m'impressionne, c'est le berger. Il en avait 100. Il en perd une. Puis il sait. Peux-tu t'imaginer un instant, le berger? Hey, des brebis sont toutes pareilles, en plus. Ils ont un nom cloné, apparemment. Ils sont déjà clonés, cette race-là. C'est déjà toutes pareilles. Et là, imagine-toi un peu le berger, là. 1, 2, 3, 4, 8, 27, 29, 20, 30, 53, 57, 50. Ah, tableau, ils ont bougé. Bouge pas. 1, 2. Puis tu sais qu'il est arrivé à 99. Tu dis, ah non, faut que je recommence. Je l'ai oublié une, certain, là, bien. Et là, il remarque ce qui est perdu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre quelque chose? Hein, parfois, on le retrouve des années plus tard. Je faisais le ménage dans mon bureau. J'ai retrouvé quelque chose hier que ça fait des années que je n'avais pas vu. Je disais, c'est vrai, j'ai ça, moi. Hein, on est surpris des fois. Mais plus l'objet perdu a de la valeur, plus tu es conscient quand il est perdu. Et Jésus affirme ici, dans ces trois illustrations, que Dieu est conscient de chaque personne qui manque. Chaque personne qui est perdue. Parce qu'il n'y a rien qui a plus de valeur pour Dieu que toi et moi. Rien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as vu que c'est marqué? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il remarque quand on est loin de lui. Son regard est toujours sur nous. Même avant la naissance, dit le psaume 139, avant même que ma mère est enceinte, le psaume 139 me dit que déjà le regard de Dieu était sur moi. Dieu sait où tu es ce matin. Il le sait. Je ne parle pas juste physiquement là, que tu es assis ici, c'est pas ça que je veux dire. Dieu sait où est ton cœur ce matin. Parce que tu peux être assis ici ce matin et ton cœur est loin de Dieu. Peut-être encore chuté dans tes dépendances en fin de semaine. Peut-être encore trébuché dans ta marche avec lui. Dieu sait où tu es. Et ce regard, c'est un regard d'amour. C'est pas un regard de jugement. C'est pas un regard de condamnation. C'est un regard d'amour. Il sait où tu es ce matin. Il connaît ton cœur. Et non seulement il remarque ce qui est perdu, mais il recherche ce qui est perdu. Parce que dans les trois illustrations, il y a des efforts qui sont faits pour aller à la recherche de ce qui a été perdu. Le berger va laisser les 99 pour rechercher celle qui est perdue. La femme va se mettre à chercher partout dans la maison, hein, pour trouver la pièce d'argent. Le père va chercher en ayant son regard constamment à l'horizon pour voir son fils revenir. Il est constamment aux aguets. C'est pour ça qu'il le voit venir de loin. Parce qu'il est constamment aux aguets de voir son fils revenir. Et la recherche des trois est exagérée, mais elle est causée par la valeur de ce qui est perdu. De ce qui est perdu. Dieu est à ta recherche ce matin. Dieu est à ta poursuite ce matin. Dieu te recherche. Peut-être qu'on t'a amené ici ce matin, peut-être que c'est la première fois que tu viens ici, peut-être que c'est dans les premières fois que tu viens ici. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu est à ta recherche ce matin. L'Apocalypse 3, le verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand tu as le sentiment d'être vide, quand tu as le sentiment d'avoir perdu le sens de la vie, quand tu as le sentiment de dire à quoi bon vivre, quand tu as le sentiment de ta conscience qui t'accuse, qui est lourde, c'est Dieu qui est en train de cogner à ta porte pour dire « Regarde, regarde, réalise, saisis, t'es perdu. » Non seulement ce qu'il recherche, mais il retrouve ce qui est perdu. As-tu déjà cherché quelque chose puis tu ne l'as pas retrouvé? C'est frustrant. Tu cherches partout puis tu ne le trouves plus. C'est frustrant. Puis des fois, c'est exactement là où tu devrais être, mais tu as passé vite le premier coup. Puis après, tu reviens au départ. Tu dis, voyons, je recommence au début. Là, tu le trouves. Tu vois, dans les trois illustrations, ce qui a été perdu a été retrouvé. Tous, le berger, la femme, le père, ont fait des efforts pour retrouver ce qui était perdu. Le père l'a fait dans la prière. Mais dans ces trois illustrations, on voit ce qui a causé la perte. Tu vois, la brebis, elle s'est perdue, elle s'est égarée en pensant juste à sa faim et en faisant à sa tête. Elle ne faisait pas confiance au berger. Savais-tu qu'une brebis, c'est têtu? Amen, savais-tu ça? C'est très têtu, une brebis. La Bible dit qu'on est des brebis. Amen, alléluia. Le drachme a été perdu par simple négligence. Elle a juste été négligente avec son bijou, puis elle a perdu une pièce. Et c'est l'image de négligence, de négliger ce qui est important dans la vie, de négliger ce qui est des vraies valeurs de la vie, qu'il n'y a pas juste le temporel dans la vie. Il n'y a pas juste métro, boulot, dodo. J'ai un ami, il m'en a rajouté un, il dit métro, boulot, dodo, robot. Il n'y a pas juste ça dans la vie, de négliger les choses importantes. Mais il y a aussi la rébellion du fils contre le père. Il connaissait le père, mais il s'est rebellé à la poursuite du plaisir. À la poursuite du plaisir. Et Dieu fait des efforts exagérés, extravagants pour nous retrouver. Romains 5, le verset 8 le dit comme ceci, « Mais Dieu prouve, arrête-là une minute. Qu'est-ce que Dieu a à me prouver? Vois-tu l'humilité de Dieu? Il prouve son amour. Wow! Combien il est bon! Combien il est doux de cœur, il est humble. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Prouve son amour. Et non seulement est-ce qu'il nous retrouve, mais il vient nous réconcilier. Réconcilie ce qui est perdu. Quand le berger retrouve la brebis perdue, il la remet sur ses épaules parce qu'elle est trop faible, elle est trop abattue, elle n'est plus capable de marcher. Le berger la prend, il la remet sur ses épaules pour la ramener dans le troupeau. Je suis de la vieille école, pasteur Jacques et moi, on est de la vieille école, puis nous autres, on entendait quand on était formés, on disait, tu sais, quand il y a des brebis dans l'église qui n'écoutent pas, là. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut faire? C'était un berger? Brebis, écoute pas, casse-leur une jambe. Tu vois, ils vont marcher droite. Pensez une minute! Une brebis qui a une jambe cassée, marche pas droite! C'est pas ça que le berger, il fait. Le berger est pas là, puis il dit, ah ouais, lève-toi. Non! Parce que sa brebis est précieuse. Et il se penche et il la remet sur ses épaules pour la réconcilier, pour la ramener. La femme retrouve le drachme perdu, elle le remet avec les 9 autres pour compléter le bijou. Le fils est réconcilié avec le père. Mais cette image du fils qui revient à la maison du père ajoute un détail important. Le fait que Dieu respecte la volonté libre de choix de chaque personne. T'as vu, hein, il se tient à la porte, puis il frappe, puis il attend qu'on ouvre. Dieu t'aime assez pour te respecter. Parce que si je ne respecte pas ta volonté libre, on appelle ça un abus. Et Dieu n'est pas un abuseur. Et il respecte ma volonté libre de choix de chaque personne. Parce que c'est seulement là qu'il peut vraiment y avoir l'amour. Et le besoin pour être réconcilié, C'est comme ça a été le cas pour le fils prodigue, c'est la repentance. 2 Pierre 3, le verset 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Oh, c'est pas un mot populaire en 2023, hein, repentance. Oh, qu'on ne l'aime pas. Repentance, là, ça veut simplement dire faire demi-tour. C'est juste ça, repentance. Faire demi-tour. En bon québécois, c'est de faire un U-turn. C'est juste ça. La repentance, c'est de réaliser que de faire à ma tête, comme la brebis, de faire à ma tête, de m'entêter, va me conduire à la souffrance et à l'agonie, va me conduire à la mort. Quand j'avais 16 ans, j'ai dit à l'univers, parce que je ne croyais pas en Dieu, alors j'ai dit à l'univers, à voix haute, à mon anniversaire, 16 ans, il n'y a plus personne qui va avoir du pouvoir sur ma vie. Tu vois, c'était ma réaction face à un père alcoolique. Et à 16 ans, j'ai dit, il n'y a plus personne qui va avoir du pouvoir sur ma vie, c'est fini. 7 ans plus tard, quand je rencontre Jésus, là, j'ai un problème avec ma déclaration. Là. Puis je m'en souviens très bien. Hein? Moi, c'est vrai, moi j'avais dit qu'il n'y a plus personne. Puis si tu rencontrais quelqu'un qui m'a connu à cette époque-là, il te dirait, Daniel, il était vraiment fidèle dans sa déclaration. Parce que tu ne pouvais pas me dire quoi faire. C'était impossible. Même si tu avais raison, tu ne pourrais pas me dire quoi faire. Et 7 ans plus tard, je rencontre Jésus, puis là, je me rends compte, ma promesse, là, elle ne tiendra pas. Il faut que j'y donne du pouvoir. C'est ça, la repentance. C'est de dire, non, m'entêter tout seul, j'y arrive pas. Puis je vais donner le pouvoir sur ma vie. Bon, quelques temps après, je me suis marié. Ça aussi, ça allait détruire la... Mais la repentance, c'est de réaliser que si je m'entête, je m'en vais vers le mur, je m'en vais vers le désastre. C'est de réaliser que si je néglige les choses importantes dans ma vie, ça va avoir des conséquences épouvantables dans ma vie. Que de me rebeller contre celui qui m'a créé et qui m'a donné la vie va me conduire à la souffrance et la perte de sens dans la vie. C'est ça la repentance, c'est de réaliser que si je continue de me rebeller, si je continue de faire à ma tête, si je continue de juste poursuivre les plaisirs de ce monde, plaisirs tellement éphémères, plaisirs tellement temporaires, je vais continuer de souffrir puis de m'entêter et d'en souffrir les conséquences. Parce que jamais est-ce qu'un plaisir terrestre va combler les besoins les plus profonds que je peux avoir en moi. Il y a quelque chose en moi qui est profond, qui a soif de quelque chose. Et C.S. Lewis disait, c'est la preuve que le ciel existe. Parce qu'il y a quelque chose chez l'être humain qui ne peut pas être comblé ici-bas. Il y a toujours une soif parce qu'on aspire à quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et pour lui, c'était la preuve de l'existence du ciel. Tu vois, c'est simplement d'admettre que je me suis perdu et de faire demi-tour et de poursuivre la vie. Et c'est là que je réalise que seul je m'en vais vers le désastre et admettre humblement mon besoin de Dieu et me tourner vers lui. C'est ça la repentance. Et quand je le fais, je ne suis pas accueilli par un juge. Je suis accueilli par un Père. Hébreux 4, les versets 15 à 16 me disent ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Wow! Ça veut dire que quand je vais vers Jésus, là, Jésus comprend. Il comprend parce que lui aussi a vécu sur la terre, puis lui aussi a été tenté, puis il comprend mes défis, il comprend mes combats, il comprend la tentation, il comprend. Je suis accueilli dans cette compréhension-là, mais ça va plus loin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. En d'autres mots, tu pourras pas y arriver seul. Dieu est là pour te secourir dans ton besoin, pour t'aider dans ton besoin. 1 Jean 1,9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » C'est ça la repentance. Et Dieu attend cette décision de ta part. Il t'aime trop pour se forcer sur toi. Il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais je comprends pas tout. » Fait que quand je vais tout comprendre, là, hein, je vais considérer le christianisme. Tu sais qu'on a fait de la compréhension à un Dieu aujourd'hui. Hein? Faut tout que je comprenne. Faut tout que je cherche. Faut que je sois au courant de tout. Hein? Les médias sociaux, ça sert à ça, là. Remarquez qu'il y a des gens qui nous aident. Parce qu'ils nous disent tout qu'est-ce qu'ils font. On le sait, hein. Bon. Si tu attends de tout comprendre, il n'y aura jamais de changement dans ta vie. Parce que moi, ça fait 40 ans que je connais Jésus. Et je ne comprends pas tout. Ah, il dit, ouais, tu étais pasteur, ça fait 40 ans, puis tu ne comprends pas tout. Ben non! Il est tellement grand, il est tellement beau, il est tellement merveilleux, il est tellement incroyable, il est tellement... Ah! Il est Dieu. Il est plus grand que ma compréhension et mon entendement. J'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de réaliser, je sais où ce que je suis. Je sais où ce que je suis. Je m'en vais vers le désert. Je m'en vais. Ma prière de conscience, ma prière de réalisation, ma prière a été, si t'existes, fais quelque chose. C'est tout. Attendez pas, il n'y a pas rien d'autre. J'ai pas dit dans le nom de Jésus, j'ai pas confessé, j'ai pas levé la main, j'ai pas... J'ai même pas dit amen. Mais je sais qu'à partir de ce moment-là, j'étais sauvé. Le Père m'attendait les bras grands ouverts. J'ai simplement dit, je sais, je comprends pas tout, mais je suis capable de voir où j'en suis. Et il restaure, non seulement ce qu'il va retrouver, qu'il va réconcilier, mais il va restaurer ce qui est perdu. Regarde les versets 20 à 22 avec moi. « Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisant. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père, l'écoute même pas, lui dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Tu vois ce que le père est en train de faire? Le père est en train de le restaurer dans la maison. Restaurer dans la maison du père. Dans le royaume de Dieu, tu n'es pas juste retrouvé et réconcilié, tu es restauré. Tu es restauré. Restauré dans ta place. Restauré dans ta place dans le troupeau, restauré dans ta place pour les 10 dracmes, restauré avec le Père dans la maison du Père comme fils, comme fille, comme enfant de Dieu. Mais tu comprends que ça peut être un processus? Ça peut être un processus de croire qu'on peut être un enfant de Dieu, de croire, dépendamment de ce que tu as vécu, que ça peut être difficile d'en arriver à cette conviction-là. Mais celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, il est fidèle pour l'accomplir. Ça peut être un processus, oui, mais il veut restaurer ta place. Il veut restaurer ton identité. Dans le royaume de Dieu, il y a restauration et non pas disqualification. Il y a restauration. Pense à l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Pierre a été restauré par Jésus. Pense à l'apôtre Paul, qui est un persécuteur de l'Église. Il a participé à des meurtres. Et pourtant, il a été restauré, il est responsable du tiers du Nouveau Testament. On le doit à l'apôtre Paul. Imagine qu'est-ce qu'il peut faire avec toi. Imagine. Il est le Dieu qui restaure. Tu n'as pas été disqualifié. Oui, le processus de restauration peut prendre du temps, comme c'était le cas pour l'apôtre Paul. On sait que pendant un certain temps, il s'est en allé, il était loin, il était en secret. Oui, il peut y avoir un processus. Oui. Mais l'objectif, c'est la restauration. Restaurer son plan original sur ta vie. Ah! Des fois, j'aimerais te dire que ça se fait comme ça. C'est un processus. Mais de restaurer ce pourquoi tu as été créé, quand tu étais dans le sein de ta mère et que Dieu avait son regard sur toi, que déjà il était en train de te tisser, il était en train de mettre des choses en toi pour les jours qui t'étaient destinés. Dieu est celui qui restaure ma raison d'être, qui restaure ma valeur, qui restaure mon identité. Et des fois, je ne l'ai peut-être pas eu dans l'enfance. Tu ne l'as peut-être pas eu à l'enfance. Mais il est le Dieu qui veut te restaurer. Quel espoir, si tu as souffert, si tu as eu des difficultés, tu as eu des abus, tu as eu des blessures, tu as été écrasé à l'enfance. Toute ta valeur a été piétinée à l'enfance. Quelle espérance, quel espoir. Il est celui qui nous restaure dans le plan original, qui entre dans ce processus avec nous. Et le dernier élément dans le royaume de Dieu, c'est qu'il y a de la réjouissance. Il y a de la réjouissance. Verset 6 dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 9, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Verset 23 et 24, « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Dans les trois histoires que Jésus utilise pour nous décrire le royaume de Dieu, ça termine tous avec de la réjouissance. La réjouissance, la célébration de ce qui a été retrouvé. Et voilà à quoi devrait ressembler l'atmosphère dans l'Église de Jésus-Christ. Il devrait avoir une atmosphère de réjouissance. Bon temps pour un amen. Non? Il devrait y avoir de la joie. On devrait être joyeux. Il devrait y avoir de la joie dans l'Église. Hein? Une fois que tu rencontres quelqu'un, les gens sont durs. Les cœurs sont durs. J'ai parlé à mon voisin de Jésus. Hein? J'ai dit, tu as besoin d'accepter Jésus. Là. Tu vas être aussi heureux que moi. Là. Les gens se disent, hey, on a assez de problèmes, on s'en rajoutera pas un autre, là. Tu vois, on devrait être les gens les plus joyeux, les plus, qui se réjouissent. C'est pas qu'on est aveugle de ce qu'on voit pas, mais on sait ce qui s'est passé. On sait qu'on a été retrouvés. Il restaure et il y a réjouissance. Réjouissance. De se réjouir de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait, et de ce que Dieu va faire. Parce que tu comprends ce matin, là. Je sais, vous avez toute l'aide du bon monde, là. Toute l'aide, hein, tout checké, tout bien, hein? Mais vous comprenez, là, que ce matin, là, présentement, là, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parce que vous avez déjà commis des péchés depuis que vous vous êtes levé, là. J'ai eu un gros ah oui, là, dans ce coin-là. On ne regarde pas à personne, mais... Tu vois, c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est par la grâce qu'on reste sauvé, et c'est par la grâce qu'on va continuer d'être sauvé. C'est pas par nos mérites. Hey, ça, c'est le sujet de joie et de réjouissance, de dire, waouh, c'est ce qu'il a fait pour moi. J'étais perdu, il m'a retrouvé, et je peux me réjouir maintenant, de se réjouir de ce qu'il a fait et ce qu'il va continuer de faire dans ma vie. Une atmosphère d'action de grâce et de célébration devrait faire partie de l'atmosphère de l'Église. Luc 15, le verset 10, ça dit ceci, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il y a de la joie. Il y a de la joie. Peut-être que depuis le début du message, là, Dieu a mis des choses, tu sais, des fois quand l'Esprit il pointe dans nos cœurs. Puis peut-être que dans ton cœur, pendant la louange, hein, on a chanté des choses, on a déclaré des choses tantôt, là, c'était vraiment bon. Et peut-être que pendant la louange, peut-être depuis le baiser, dans ton cœur, tu as dit, « Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon, je le sais. Là. Je vois des choses. Là. Je te demande pardon, Seigneur. Hein? » Conviction. Tu comprends que quand tu as fait ça, là, il y a eu de la joie au ciel. Parce que tu t'es repenti. Parce que tu t'es repenti. Il y a de la joie dans le royaume de Dieu. Comment regardes-tu les gens autour de toi? Comment regardes-tu les gens autour de toi? Comment les vois-tu? Est-ce que ça ressemble aux pharisiens et aux scribes? Quand tu regardes les autres, Sois honnête. T'as pas besoin de rien me confesser à moi, là, ce matin. OK? Mais comment tu regardes? Comment tu regardes? Moi, j'ai déjà dit à Dieu, Seigneur, le monde, je parle pas de l'Église, hein? L'Église, non, on est parfait, nous autres, on est ça. Mais je regardais les gens dans le monde, puis je dis, Seigneur, ils sont vraiment imbéciles. Les gens dans le monde, hein? Ils sont vraiment imbéciles, ça n'a pas de sens. Et le Seigneur m'a simplement dit, non, Daniel, ils ne sont pas imbéciles. Ils ne sont juste pas parfaits. Eux autres non plus. Oh! Comment je regarde les gens? Quelques mois après ma conversion. Et je me suis converti à une époque où, quand tu allais à l'église, ça paraissait que tu allais à l'église. Amen, alléluia. Dans la façon que tu t'habillais, ça paraissait que tu t'en allais pas juste au resto, tu t'en allais à l'église. Des culottes déchirées, tu n'en avais pas à l'église. Amen. Ça me fait du bien. Come on. Hein, c'était la belle habit, la cravate, hein, puis on s'en allait avec nos bibles, puis on s'en allait à l'église. Et je viens d'une église anglophone où il y avait une cinquantaine de nations de représentées, de toutes les couleurs, de tous les arrière-plans, de toutes les cultures. Mais on avait une forte population dans l'église des gens des Caraïbes, des gens des Antilles. Oh, 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 oh. Et quand les gens des Antilles s'en vont à l'église, ils s'en vont à l'église. Et c'était à l'époque des chapeaux pour les madames, hein? Et puis ça rentrait dans l'église, là, puis je te dis que attache ta tuque, c'était beau. C'était beau. Puis on avait un beau bâtiment, c'était une belle église en rond, avec des beaux sièges, des belles colonnes de bois, c'était beau. Et je me souviens, à un moment donné, ça fait quelques mois que je suis là. Puis il y a des gens qui sont arrivés, il y a un petit groupe de 3-4 personnes qui sont arrivées. Hey, t'étais à l'église, là. Tu comprends? T'étais pas bien habillé, là. Hein? C'était pas beau. Puis j'ai juste senti dans mon cœur, je dis, ah, ils sont en train de salir mon église. J'ai quelques mois de vie chrétienne dans le corps, je suis déjà rendu pharisien, moi, là. Mais le Seigneur, il était bon avec moi, il m'a dit, Daniel, si mon église ne les accueille pas, c'est qui va les accueillir? Oh! Oh! Comment tu regardes les gens autour de toi? Est-ce que tu essaies de vivre ta vie chrétienne par tes propres efforts? Tu sais que tu peux être évangélique et religieux. Hein? Amen. Est-ce que tu essaies par tes propres efforts? Tu vois, Jésus désire que l'on saisisse aujourd'hui que le royaume de Dieu est pour ceux qui ont humblement admis qu'on est tous des gens de mauvaise vie. Je sais que tu as de l'air clean, je sais que tu as de l'air propre, je sais que ça fait des années que tu marches avec Jésus, je sais que ça fait des années que tu lis ta Bible, je le sais. Mais comprends-tu que devant la pureté, la sainteté de Dieu, tu es quelqu'un de mauvaise vie ce matin? Il n'y a personne de nous autres qui est assez pur pour mériter le salut. Personne! Et c'est là que je peux regarder mon prochain, regarder l'autre à côté de moi et de marcher dans l'humilité et de dire, ben moi, ouais, je sais. Moi aussi, je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi aussi, c'est par la grâce que je suis sauvé. Qu'on est tous perdus sans sa grâce. Alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. Quand je prends conscience qu'il avait remarqué que j'étais perdu, qu'il est venu à ma recherche, qu'il ne m'a pas abandonné, il est venu à ma recherche et qu'il m'a retrouvé, qu'il m'a réconcilié en faisant tout, tout, incluant respecter ma volonté libre ma volonté libre de choix. Qu'il m'a embarqué, qu'il a accepté, qu'il s'est intentionnellement entré dans un processus de me restaurer pour ce à quoi j'ai été créé. De venir guérir ce qui a été brisé à l'enfance. De venir guérir ce qui a été broyé à l'enfance. De venir guérir ce qui n'a pas existé à l'enfance. J'ai mis des années, j'étais pasteur. Pas que ça veut rien dire, non, mais j'étais pasteur. Bon. Pour finalement être capable de dire Dieu le Père. J'avais pas de misère, j'étais sauvé, là. J'avais accepté Jésus, moi. Pas de trouble avec Jésus. le Père, non, je n'étais pas capable de dire Dieu le Père. Parce que ma relation avec mon Père terrestre, oh non, il y avait trop de blessures. Dieu a été patient. Mais à un moment donné, Jésus a dit à Philippe, « Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Ah! Et de vivre un moment où Dieu me dit, « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Daniel. Je suis lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. » C'est un processus, cette restauration-là. Processus de restaurer mon identité. De continuer de grandir encore aujourd'hui. De m'accrocher à celui qui a commencé une bonne œuvre en moi, il est fidèle pour l'accomplir parce qu'elle n'est pas terminée. L'œuvre n'est pas terminée. Et c'est pas étonnant. Il y a une joie dans mon cœur. Il y a une joie dans mon cœur. Je peux me réjouir. Au milieu des pires épreuves, au milieu des pires situations, je peux me réjouir. Pas que je suis dans le déni, mais je sais que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qui va être le processus, mais je sais que Dieu va faire... Mais ça peut être dur, là. Ça peut être long, là. Ça peut être souffrant, là. Parfois, Dieu va aller à l'intérieur pour me faire voir qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il va aller me faire voir la racine de ma blessure. Pas pour m'écraser, pour me guérir, pour l'enlever, la racine. Parce qu'il veut me restaurer. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es perdu? Est-ce que tu es perdu? Est-ce que tu es ici et tu n'es pas en relation avec Jésus? Tu dis, oh, je ne comprends pas tout. Est-ce que tu es capable de comprendre que tu es vide? Il n'y a pas vraiment de sens à la vie ici-bas. Et que tu as juste besoin d'aide. Es-tu capable de comprendre ça? Commence là. Mais peut-être que ce matin, tu es ici, comme à toutes les semaines. Mais où est-ce qu'est ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur, il est loin? Est-ce que ton cœur, il est rebelle? Est-ce que tu négliges des choses? Est-ce que tu t'entêtes dans certaines choses? Est-ce que ton cœur est loin ce matin? Dieu le sait. Et il veut te ramener pour te protéger, pour t'aimer, pas pour te brimer. Il a commencé une œuvre en toi. Je sais que des fois, le processus peut être lent, peut être long. Je le sais. Mais il est fidèle. Et s'il a commencé, il va l'accomplir. Il veut te restaurer. Ce matin, fais demi-tour. Fais demi-tour ce matin. Reviens. Rapproche-toi. Et il va t'accueillir les bras grands ouverts. Est-ce qu'on peut courber les têtes ensemble? Tu es ici ce matin et tu n'es pas en relation avec Jésus. On t'a invité, c'est dans les premières fois que tu viens, tu n'es pas en relation avec Jésus. Tu as besoin simplement d'y ouvrir ton cœur, de dire, Jésus, je veux te connaître. Je ne comprends pas tout. Mais je comprends que ça ne va pas bien dans ma vie. Ma vie est vide. Ça, je le comprends. Ça, je le sens. Il n'y a rien qui semble satisfaire ma soif profonde. Peut-être que tu es croyant, peut-être que tu es chrétien. Mais ce matin, si je te pose la question, tu es où? Peut-être que tu es loin de lui ce matin. Juste par négligence. Tu n'as pas nécessairement rien fait de traumatique. Tu es juste négligé. Tu es juste loin. Même si tu as fait des choses qui ne sont pas correctes, il va t'accueillir à bras ouverts ce matin. Peut-être que tu es découragé du travail que Dieu il semble avoir encore à faire dans ta vie. Il y a encore du travail à faire dans ta vie. Tu n'es pas encore arrivé à la stature parfaite de Jésus-Christ. Bienvenue dans l'humanité. Mais celui qui a commencé, il est fidèle pour l'accomplir. Il y a un espoir en lui. Rapproche-toi de lui ce matin. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi que Dieu a mis sur ta route. Puis ton regard, parce que c'est des gens de mauvaise vie. Et Jésus veut changer ton regard ce matin. Il dit non, regarde-les comme moi je les ai regardés. Regarde-les comme moi je t'ai regardé. et que je continue de te regarder. Si tu t'identifies à cela, je veux prier pour toi. Tu t'identifies, tu dis, je n'ai pas accepté le Seigneur, je veux m'approcher de lui. Je connais le Seigneur, mais je suis loin ce matin. Peut-être que j'ai besoin de me repentir et dire, Seigneur, change mon regard sur des gens qui sont autour de moi. J'aimerais vraiment prier pour toi. Et ce que je te demanderais, juste pour savoir pour qui je vais prier, juste de lever ta main là où tu es. Dis, prie pour moi. Quand tu vas prier, là, pense à moi. Je suis loin ce matin. J'ai besoin de venir à lui ce matin. J'ai besoin de changer mon regard ce matin. Peut-être que j'ai besoin de changer mon regard sur mes propres enfants parce qu'ils sont loin de Dieu. Ça me fâche tellement de les voir faire qu'est-ce qu'ils font. Seigneur, donne-moi ton amour et ta grâce pour eux. Donne-moi ton amour et ta grâce. Peut-être que c'est des parents qui t'ont blessé. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. À pardonner. À manifester ton amour. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a enlevé leur main ce matin. Je te prie que tu viennes les rencontrer maintenant. Tu dis que si on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Alors, je te prie que tu viennes maintenant. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu as frappé à la porte de leur cœur et timidement t'ouvrent la porte ce matin. Ah, viens leur confirmer tout l'amour, la grâce, le pardon que tu as pour eux. Je te prie pour ceux qui sont peut-être comme le fils prodigue, qui sont dans des situations... Quand ils se tournent vers toi, tu les accueilles à bras ouverts parce que tes enfants reviennent à la maison. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes tes yeux, ton regard, ton cœur pour regarder les gens autour de nous. Pas juste à l'extérieur de l'Église, mais même dans l'Église. Qu'on trouve en ce lieu un hôpital spirituel. Qu'on va s'entraider mutuellement. Et qu'on va se réjouir pour la grandeur de notre Dieu et toute la grâce qu'il nous a manifestée. En ton Saint-Précieux nom, Jésus, tout le monde en dit Amen et Amen.